Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les derniers jours des reines, c'est le titre d'un ouvrage paru sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévilla chez Perrin, une coédition avec le Figaro Histoire. Et Franck Ferrand reçoit cet après-midi sur Europe 1 Jean-Christophe Buisson. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Avec Jean-Christophe Buisson, nous allons revivre les derniers instants de toutes ces souveraines. Celle que j'ai choisie pour vous raconter sa fin, c'est la reine de Serbie, Draga Obrenović.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Émilie qui veut en savoir plus sur l'origine de l'expression « fier comme Artaban ».
Oui, on aurait pu dire aussi « fier comme Draga », vous allez comprendre.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur de l'été 1900, au début du mois d'août 1900, mais néanmoins il pleut. Draga Machine se marie avec Alexandre Ier, roi de Serbie. Pour l'occasion, la mariée a revêtu la plus belle des robes blanches, assortie d'un long voile délicatement posé sur ses cheveux sombres. Quant au jeune souverain, il porte son costume le plus élégant, rehaussé de nombreuses médailles et décorations diverses, évidemment. À première vue, tout ça ressemble à un conte de fées. Jugez plutôt, celle qui devient reine en ce jour n'est qu'une roturière de 35 ans. Il lui aura fallu vaincre bien des difficultés pour que son souverain, qui était perdument amoureux d'elle, finisse par l'épouser. Mais si l'on y regarde de plus près, au-delà de ses belles apparences, l'union est assez éloignée de l'univers secret d'un conte. Autour de nos mariés flotte même une atmosphère, comment dirais-je, un peu désagréable. Il faut dire que notre héroïne est en réalité moins proche d'une Cendrillon que d'un curieux mélange de Rastignac et de Lady Macbeth. Dans des versions, disons-le, aussi bien pour Rastignac que pour Lady Macbeth, un peu au rabais. Pour retracer son surprenant parcours, il faut que nous revenions une grosse de quinzaine d'années plus tôt, lors d'un autre mariage de Draga, un mariage qui était nettement moins prestigieux. À l'époque, elle n'avait même pas 20 ans et elle épousait non pas un roi, mais un ingénieur du nom de Svetočar Mašin, justement. Pour cette fille d'un paysan notable de province, c'était une union qui déjà marquait un premier changement d'univers. Elle déménageait dans un bel appartement de Belgrade, la capitale du jeune royaume de Serbie. Assez rapidement, on la voit qui se met à la vie mondaine. Elle participe à toutes sortes de belles réceptions. Elle a l'air tout à fait à l'aise dans cette vie-là. C'est dans ce cadre qu'elle croise d'ailleurs un jour les membres de la famille royale serbe, le roi Milan, sa femme Natalia et leur fils, un fils un peu falot comme ça en apparence, à peine adolescent, Alexandre. Draga ne sait pas encore que ces trois personnages, devrais-je dire, vont jouer dans sa vie un grand rôle, mais quoi qu'il en soit, elle a déjà tout pour faire impression. Je cite Jean-Christophe Buisson. Draga rayonne. Au contact de la ville, la jeune fille pétillante à l'allure paysanne est devenue une femme élégante, à la taille fine, aux toilettes audacieuses. Elle est belle et consciente de l'être. Des cheveux sombres tombant en cascade sur des épaules volontiers dénudées, des yeux noirs perçants au milieu d'un visage d'une blancheur remarquable, une bouche mince, sensuelle et colorée, un air délibérément hautain, je vous disais fier comme Draga tout à l'heure, on peut dire que cette jeune fille, nous dit Jean-Christophe Buisson, ne déteste pas qu'on la dévore du regard. Mais déjà, son mariage bat de l'aile. Il faut vous dire que le Svetočar, là, a un goût très prononcé pour l'alcool, goût qui va vite rendre à Draga sa liberté. En effet, après quelques années d'union, en 1886, le pauvre homme, l'esprit trop aviné, glisse dans un escalier et se brise la nuque. Conséquence directe pour Draga, elle doit trouver un nouveau moyen de subsistance. La jeune femme décide alors de tenter sa chance. Elle va se débrouiller pour retrouver cette reine qu'elle avait un soir croisée, la reine Natalia. Et la souveraine, pleine de compassion pour cette jolie veuve qui sait bien s'exprimer, qui sait bien défendre ses intérêts, la reine décide, là ça commence à devenir incroyable cette histoire, d'en faire sa dame d'honneur. Alors là, ça c'est une ascension certaine pour Draga, bien entendu. La voilà aux premières loges de la désunion du couple royal, parce qu'il faut vous dire qu'entre Milan et Natalia, ce ne sont que disputes, déchirements et bris de vases précieux. Les choses vont si loin qu'après de multiples péripéties, le roi et la reine vont finir par divorcer. Et en 1891, la reine Natalia est même reconduite gentiment chez elle à la frontière. Le roi Milan est très impopulaire, tellement impopulaire du reste qu'il choisit d'abdiquer en faveur de son jeune fils, qui va donc monter sur le trône sous le nom d'Alexandre Ier. Alexandre Ier de Serbie, ça vous dit forcément quelque chose, c'est une des figures de la Belle Époque, bien entendu. De son côté, Draga va suivre la reine en France jusqu'à Bidart, près de Biarritz. Là, elle s'installe dans un très agréable domaine, face à l'océan, sur cette merveilleuse côte landaise. C'est le début d'une période qui, pour Draga, va se révéler difficile. C'est un exil, bien entendu. Elle ne se fait pas, notre Draga, elle ne se fait pas du tout à ce climat basque. Elle trouve le temps long, très long. Elle sombre même dans une forme de déprime. Et elle se met à avoir des pensées suicidaires. Le temps passe, sans événements très notables, jusqu'à ce que le jeune roi Alexandre, de passage en France, vienne rendre visite à sa mère. Et forcément, on est là en 1895. Et d'un seul coup, au stupeur, l'adolescent timoré que Draga avait autrefois croisé se révèle tout changé. Alors bon, disons-le clairement, Alexandre n'est pas un prix de beauté. Ses traits sont lourds, il dégage un charisme tout relatif, mais il n'en est pas moins devenu un homme. Voilà ce que nous dit Jean-Christophe Buisson. La chose n'échappe pas à Draga, qui voit soudain renaître ses rêves et ses ambitions. De 12 ans son aîné, elle ne tarde pas à prendre en main le jeune homme et sans peine, elle l'attendrit, le séduit, l'envoûte. Tout cela a lieu dans le dos de la reine Natalia, qui d'ailleurs a d'autres ambitions pour son fils qu'une divorcée trentenaire de très moyenne extraction. Mais Draga peut être confiante. Alexandre est maintenant complètement pris, il est dans ses filets, et si elle sait s'y prendre, je pense qu'elle va savoir s'y prendre, elle peut tout à fait espérer un avenir royal.
Extrait de la danse hongroise numéro 1 de Brahms sur Europe 1. Restez avec nous si vous voulez savoir comment la dame d'honneur de la reine Natalia va réussir à épouser Alexandre Ier. C'est dans un instant que Franck Ferrand vous dévoile tout ça dans Au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, ce sont les reines qui sont à l'honneur. Vous avez décidé de nous parler de Draga cet après-midi, Franck. Alors, pour l'instant, c'est la dame d'honneur de la reine de Serbie,
reine
divorcée,
exilée,
voilà, oui. Exilée. Et le fils de la reine est tombé amoureux de cette dame d'honneur.
Et voilà. Et vous imaginez bien que la reine Natalia n'a pas les yeux dans sa poche. Elle a très bien compris ce qui se tramait entre son fils et cette espèce de dame d'honneur trop ambitieuse. La relation entre la reine et sa dame d'honneur devient vraiment très difficile. Et un jour de grosses disputes, Natalia décide de chasser Draga. En lui annonçant sa décision, évidemment, elle a l'impression de moucher l'insolente. Sauf que celle-ci n'est pas si facile que ça à moucher. Elle a beaucoup de hauteur, Draga, je vous l'ai dit, elle se dresse. Et voilà ce qu'elle dit à sa bienfaitrice. « Quand vous entendrez à nouveau parler de moi, madame, Je serai reine à mon tour. Ben voilà qui a le mérite de la clarté. Et peu après, Draga, en effet, si je puis dire, est à Belgrade. Nous sommes là en 1897. Alexandre ne va pas tarder à lui rendre visite. Il fallait y songer. Et il va même passer des nuits chez elle. Et par petites touches, elle sent bien qu'elle est tout près du but. Son étoile resplendit de plus en plus. Bientôt, on la voit prendre place dans la délégation serbe lors d'une visite royale à l'étranger. Puis le roi se permet des démonstrations publiques d'attachement. Tout cela n'est évidemment pas vu d'un très bon œil. Jean-Christophe Buisson précise, je le cite, « Toute la ville et le gouvernement s'inquiètent de l'emprise de cette jeune veuve à la réputation douteuse sur le roi. Des intellectuels serbes annoncent qu'ils ne remettront plus le pied à Belgrade tant que la ville sera souillée par sa présence. » Et ce n'est pas tout, la maîtresse du roi doit subir le fiel de tout un tas de textes malveillants. Il y a des rumeurs sur elle, des ragots, on chuchote dans son dos dès qu'elle passe quelque part, évidemment. Et donc, au début de l'été 1900, le fier souverain de 24 ans annonce officiellement sa décision d'épouser Draga Machine, qui a quand même, lui, à 24 ans, elle en a 36. Pour beaucoup, c'est un coup de tonnerre. Au-delà des considérations sur la personne choisie, disons que la dynastie Obrenović n'a pas d'héritier direct. Il semble fou d'épouser une femme aussi âgée et on peut imaginer qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. Le pays, dans ce cas-là, va tomber dans une véritable crise. Le gouvernement se dissout, des représentants du clergé orthodoxe expriment leur opposition. Quant au père d'Alexandre, l'ancien roi, vous savez, qui avait abdiqué en sa faveur, le roi Milan, il décide de quitter le commandement de l'armée qui lui avait été attribué. D'après Maurice Duplay, il aurait dit à son fils « Un sous-chef de musique, le plus mince soldat de l'armée, n'oserait se marier comme vous le voulez faire. » Malgré tous ces vents contraires, Alexandre n'entend pas renoncer à Draga. Au début du mois d'août 1900, il l'épouse donc, c'est ce que je vous disais pour commencer ce récit, il l'épouse au nez, à la barbe de tous, voilà donc Draga, reine de Serbie. Vous rappelez ce qu'elle avait dit à celle qui maintenant est devenue sa belle-mère? Elle semble bien décidée à se faire respecter dans ce nouveau statut si peu fait pour elle. Elle n'opte pas pour une attitude réservée, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici ce que raconte Maurice Duplay, je le cite. « Draga multipliait les cérémonies où sa beauté resplendissait au milieu de l'apparat royal. Assise à la droite de son époux, elle épiait les visages des fonctionnaires qui défilaient. Si elle y relevait le moindre signe d'antipathie, elle provoquait un esclandre. D'autre part, la reine, prise d'envie et de caprices insensés, exigeait d'Alexandre qu'il les satisfît sur l'heure. Elle obtint notamment un régiment de parade dont elle serait la sémillante colonelle et même un yacht. De plus en plus, les Serbes renâclent. Ils s'irritent et d'autant que par ailleurs, la politique d'Alexandre, qui est une politique extrêmement dure et autoritaire, suscite beaucoup de désaccords. Des manifestations ont lieu, dont Draga sert plus ou moins de prétexte. On raconte qu'un jour, alors qu'une foule est en train de menacer le palais royal, Draga aurait elle-même recommandé à son mari l'usage de la force. Mais mon ami, que ne faites-vous tirer sur cette populace? Bilan, une vingtaine de morts. L'atmosphère dans le pays est électrique et la question de l'absence d'héritier, de l'âge de cette nouvelle reine, tout ça n'arrange rien, bien entendu. À un moment, on a bien cru que la reine Draga était enceinte, seulement ça s'est révélé être une grossesse nerveuse. De là à penser qu'elle aurait purement simulé l'événement, vous imaginez bien qu'il n'y a qu'un pas. Alors, les rumeurs circulent plus que jamais. Certains prétendent qu'un plan existe pour faire passer un bébé de la sœur de Draga pour le sien propre. D'autres racontent qu'elle aurait réussi à faire secrètement de l'un de ses frères l'héritier de la couronne. C'est-à-dire que le personnage est tellement incroyable et l'attitude qu'elle adopte en toutes circonstances se révèle à ce point arrogante qu'on peut effectivement lui prêter à peu près tous les desseins. Or, les frères de Draga sont, j'allais dire, autant détestés qu'elle. Je me demande même s'ils ne le sont pas davantage. On le voit. Tous les éléments d'une tragédie sont en train de se mettre en place. N'oubliez pas que nous sommes dans cette remuante, dans cette bouillonnante époque 1900, où il ne fait pas bon parfois être Altesse Royale, où les bombes des terroristes sont en train d'éclater un peu partout en Europe et où les manifestations populaires sont plus nombreuses qu'elles l'ont jamais été. Le dernier acte de ce qui va se révéler une tragédie pour la dynastie et pour la fameuse Draga, ce dernier acte va arriver. Je vous rassure, j'aurai même le temps de vous le raconter.
Les reines ont marqué l'histoire, souvent grâce à leur caractère et leur personnalité. Franck Ferrand met les reines à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez réagir à cette émission, bien sûr, jusqu'à 15h sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Parmi les reines qui ont marqué l'histoire, il y en a une dont vous avez décidé de nous raconter l'histoire cet après-midi, Franck Ferrand. Elle s'appelait Draga Machine, devient Draga Obrenović, puisqu'elle est reine de Serbie. Et on ne peut pas dire qu'elle soit très populaire.
Non, elle s'est mariée, vous l'avez vu, donc en août 1900. On va laisser passer trois petites années. Et le 10 juin 1903, les choses se gâtent. À Belgrade, la tension est pour le moins forte. La situation économique de la Serbie est très difficile. Les tensions politiques et sociales, vous l'aurez compris, deviennent maintenant presque intolérables. Tout ça sature l'atmosphère. Le Premier ministre est dans une impasse et d'ailleurs, il va finir par donner sa démission au roi. C'est ce qu'il a fait en ce 10 juin 1903. Mais sans qu'Alexandre le mesure bien, cette mauvaise nouvelle n'est rien à côté de ce qui l'attend. Car en ville, un complot est en train d'entrer dans sa phase finale. Alors que la nuit est tombée sur Belgrade, un groupe d'officiers se met en marche vers le palais royal. Un groupe d'officiers bien décidés à mettre fin à la dérive du pouvoir. À leur tête, deux meneurs, dont l'un n'est autre que le frère du premier mari de Draga, qui est persuadé qu'elle a une responsabilité énorme dans la mort de l'ingénieur. Rappelez-vous qu'il était tombé dans un escalier quand même. Et après tout, et si Draga l'avait un tout petit peu poussé, profitant de son ivresse presque permanente. En tout cas, c'est ce que pense le frère. Et bientôt, le groupe des conjurés, qui a été chauffé à blanc, arrive devant la grille du palais royal. Là, un complice doit leur ouvrir de l'intérieur, seulement l'homme n'est pas là. On l'attend, il ne vient pas, donc les conjurés finissent par se lasser d'attendre. Ils font sauter le verrou, quitte à donner l'alerte, et dès lors il n'est plus temps de tergiverser. Ils neutralisent le système électrique du palais, ils pénètrent dans l'enceinte, ils se mettent à la recherche du couple royal. Ça fait penser à une chasse, vous savez, ça fait un peu penser à ce qui est arrivé au Ceausescu dans la voisine Roumanie, beaucoup plus près de nous. Maurice Duplay raconte, les conjurés ont dégainé et s'avancent le sabre au poing. Certains, par peur d'un traquenard, lardent les rideaux, les tapisseries. Peut-être qu'au travers, ils atteindront Draga qui s'y dissimule. Il fouille la salle du conseil, fouille le cabinet de travail, le salon d'attente, fouille le billard, le vestiaire, le salon arabe, sans découvrir le couple. Et pour cause, Draga et Alexandre, qui étaient en train de dormir dans leur chambre au moment de l'insurrection, bien sûr, ont été réveillés par tout ce fracas. La terreur les saisit. Le roi, d'abord, veut affronter la situation, tenter de discuter avec les assaillants. Mais Draga est bien plus maligne. Elle l'en dissuade. Mieux vaut tenter, dit-elle, de trouver une cachette en attendant les secours. Il n'y a encore pas si longtemps, un conduit secret menant du palais jusqu'à l'ambassade russe aurait pu les sauver. Seulement, ce passage a été condamné par le roi Milan, par le père d'Alexandre. Alors, faute de mieux, le roi et la reine vont trouver refuge dans une sorte de cagibi dont la porte peut passer inaperçue. Il faut vous dire que le palais est très décoré, qu'il est plongé dans l'obscurité. Bref, le roi et la reine s'habillent avec les vêtements qui leur tombent sous la main. Ils attendent, que faire d'autre ? Sans doute qu'ils entendent les escarmouches qui ont déjà lieu dans le palais, alors que les conjurés sont en train de progresser au sein même des appartements royaux. Bientôt, on entend des coups de hache, très proches, qui retentissent. La porte de la chambre royale va être défoncée, ça y est, les insurgés sont là, les conjurés, devrais-je dire plus exactement. Une seule paroi sépare désormais Alexandre et Draga des assaillants. Mais, alors qu'on attendait le pire, les assaillants repartent. La cachette n'a pas été découverte. Dans le cagibi, on peut imaginer le soulagement, l'espoir même un peu fou. Répit de courte durée, les conjurés reviennent dans la chambre et cette fois, ils se dirigent tout droit vers la porte du cagibi. Vous avez bien compris que quelqu'un leur a révélé l'existence de la cachette. Alors, la hache des assaillants s'attaque directement à la porte. Le couple est transi de frayeur. Il prend le parti d'ouvrir pour sortir. Les voilà tenus en joue. Les voilà acculés. Les voilà perdus. Jean-Christophe Buisson raconte, la lumière vacillante des bougies et des cierges dont se servent les soldats pour éclairer rajoute à l'étrangeté de la scène. Le roi et la reine de Serbie, grotesquement habillés de vêtements dépareillés, face à une dizaine d'hommes armés d'épées et de revolvers. On exige alors du roi qu'il renonce au trône, seulement avec une hauteur dont on se demande bien de qui il a pu la prendre. Il répond, je ne me laisserai pas intimider par un quarteron d'officiers factieux. Oh ben là, la réaction ne se fait pas attendre. Alexandre est abattu, il s'écroule. Et maintenant, Draga est seule. Elle est terrorisée. Elle n'a guère le temps de réagir. Depuis longtemps, sa condamnation avait été prononcée dans l'esprit des conjurés. Une salve de balles l'atteint à son tour. Elle s'effondre. C'est la fin du règne, du court règne de Draga Obrenović. Mais pour les assaillants, la mort des souverains n'est qu'une étape. Leur haine n'est pas satisfaite. Ils vont maintenant s'occuper des cadavres. Draga est frappé avant d'être lacéré, éventré. Enfin, quelqu'un a l'idée de précipiter le corps de la martyre par une fenêtre. Le roi Alexandre va d'ailleurs subir le même sort. Et Jean-Christophe Buisson de conclure, dehors, sous une pluie fine qui annonce l'aube du 11 juin 1903, des cris de joie s'élèvent autour des corps sans vie des souverains tombés au milieu d'un massif de roses rouges. Des roses rouges que la reine Draga avait elle-même plantées à la fin de l'hiver précédent. Bonjour Jean-Christophe Buisson.
Bonjour.
Nous vous avons suivi de près dans ce récit. Avec vous dans un instant, on revient sur Draga et sur les autres.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, ce sont les reines qui sont à l'honneur. Alors grâce à vous Franck Ferrand, il y a quelques minutes nous avons fait connaissance avec la reine de Serbie, Draga Obrenović, qui a eu un destin quand même assez tragique. Vous recevez cet après-midi Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, spécialiste des Balkans et du monde slave et auteur des Derniers jours des reines avec Jean Sevilla, paru chez Perrin et le Figaro Histoire.
Ça valait pas la peine, Jean-Christophe Buisson, de devenir reine de Serbie si c'est pour finir haché menu dans un cagibi, quand même, vous avouerez.
Certes, mais il y a beaucoup de reines qui ont fini tragiquement, donc elle est sur le modèle de Marie Stuart ou Marie-Antoinette, assassinée ou Agrippine.
Mais alors là, aucune noblesse. On aurait peine dans toute la vie de cette pauvre Draga à chercher quelques moments d'éclat ou simplement de décence. Il y a quelque chose de très âpre dans ce fond de caractère, somme toute très paysan peut-être, hein.
C'est une femme qui vient d'un village, d'une petite ville au sud de Belgrade, et c'est une grande ambitieuse et qui s'est effectivement glissée dans le moule régional qui n'est pas forcément de la même distinction, de la même élégance que nos monarchies occidentales.
Alors, on est habitué, nous, aujourd'hui, à voir des princes épouser des bergères. C'est devenu même le lot courant au 21e siècle. Ça n'était pas le cas du tout au tournant du 20e siècle. Simplement, là, on est avec une dynastie un peu particulière, les Obrenović, hein, quand même.
Oui, c'est pour ça que on a beaucoup noirci ce qu'elle a fait, sans doute à juste titre. Mais il ne faut pas oublier que c'est une dynastie qui est assez populaire, les Obrenović. Pourquoi ? Parce qu'elle est récente. Et c'est surtout la dynastie, avec les Karađorđević, qui est la dynastie rivale qui va récupérer le trône
la
après.
Suite, oui.
Ce sont deux familles qui ont chassé les Ottomans de la région au début du 19e siècle, en 1804 puis en 1815. Et ça, c'est le critère essentiel pour les Serbes à l'époque et encore aujourd'hui, c'est de chasser les Turcs qui ont occupé la région pendant 4 ou 5 siècles.
Des Serbes qui appuient leur puissance, évidemment, directement sur le soutien de la très 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 puissante monarchie russe. Hein. Ce sont des Slaves quand même, il ne faut pas oublier.
Oui, puissante,
hein.
Mais lointaine.
Mais lointaine.
Donc les Serbes sont un petit peu obligés de se débrouiller par eux-mêmes avec les Monténégrins qui sont les voisins. Et leur véritable ennemi, ça n'est plus les Turcs au 19e siècle, c'est l'Autriche. Pourquoi ? Parce que l'Autriche-Hongrie, en tout cas l'Empire austro-hongrois, occupe des régions qui sont habitées parfois majoritairement par des Serbes, comme la Croatie, comme la Bosnie. Et vous voyez ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en 1903, mais dans 11 ans, il y aura un assassinat d'un archiduc à Sarajevo par un Serbe qui déclenchera la Première Guerre mondiale.
D'ailleurs, la main noire joue un rôle là, dans le complot là, qui nous concerne
absolument,
aujourd'hui.
Absolument, puisque le deuxième personnage, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait deux leaders dans cette conjuration militaire, le frère de Dragan Machin épouse Obrenović.
Machin, ça ne s'invente pas.
Machin. D'ailleurs, les Français aimaient beaucoup les Serbes, ont toujours beaucoup aimé les Serbes, et à l'époque, on faisait des jeux de mots dans la presse française en disant c'est Alexandre est le roi mécanicien. Parce qu'il veut faire des enfants à la machine.
Oui, on jouait avec il ne risquait pas d'y arriver, du reste.
Il ne risquait pas d'y arriver. Et donc voilà, donc le frère de Draga fait partie des conjurés. Et l'autre colonel qui dirige ce conjuré, c'est Dragutin Dimitrievich Apis. Apis en référence à son coup de taureau,
qui est un
personnage haut en couleur, un franc-maçon avec une immense croix orthodoxe, une épée tatouée, une rose sur le corps.
Oui.
Personnage. Qui dirige une structure qui s'appelle la Main Noire, enfin l'Unité ou la Mort, mais qu'on a appelé la Main Noire, et qui veut renverser cette dynastie parce qu'elle considère non seulement qu'elle n'est pas à la hauteur de son ambition, mais surtout qu'elle est en train de basculer dans une alliance avec l'Autriche. Et ça, c'est absolument insupportable.
Ce sont des nationalistes slaves,
absolument,
en fait.
Ils sont sur le modèle des carbonari italiens. Ils font la même chose que les Italiens, mais quand les Italiens ont chassé les Austro-Hongrois de la région, mais en Serbie. Et c'est cet homme-là qui, 11 ans plus tard, coordonnera l'assassinat de François Ferdinand, en tout cas armera les jeunes nationalistes serbes qui tueront François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914.
Nous avons été obligés d'aller un peu vite, forcément, avec Pierre-Louis Lancel pour préparer ce récit. On est passé sur la personnalité de la reine Natalia, mais je voudrais surtout pas qu'on croie qu'elle était beaucoup plus fréquentable que sa belle-fille. C'était beaucoup mieux.
Non, vous avez évoqué justement ces disputes invraisemblables qui relevaient du théâtre de boulevard.
Ils se jetaient les vases à la figure.
Ils se kidnappaient mutuellement. C'est-à-dire que quand le petit Alexandre partait avec sa mère, son père organisait un kidnapping et vice-versa quand elle était à Wiesbaden.
Ils se volaient l'enfant.
C'était devenu l'enjeu de leur divorce qui faisait beaucoup de bruit. Et donc la reine Natalia s'est exilée. Ensuite, elle est restée en France d'ailleurs et elle s'est retirée dans un monastère près de Paris à la fin de sa vie.
Alors on aurait pu imaginer qu'une fois montée sur le trône, ayant parfaitement accompli le dessein pour lequel elle se sentait née, parce qu'il y a quelque chose de la prédestination dans le parcours de Draga Obrenović, on aurait pu penser qu'elle aurait la noblesse de retourner la situation, d'essayer de se montrer une bonne reine, etc. Pas du tout. Elle est la pire des reines, des tyrans de théâtre, disons-le.
Oui, c'est vrai qu'elle était absolument, objectivement pas faite pour être reine. C'était vraiment une ambitieuse qui voulait le pouvoir pour le pouvoir et qui a très bien compris. C'est une situation politique à l'époque qui est quand même très, très compliquée parce que c'est une jeune démocratie, c'est une monarchie constitutionnelle, mais enfin qui découvre quand même la démocratie à travers d'ailleurs l'exemple français puisque le parti de dirigeants de l'époque, c'est le Parti radical qui a été vraiment fait sur le modèle du Parti radical français. La constitution qui a été abolie par Alexandre est une constitution qui ressemble à la constitution de Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet. Donc on essaye de suivre le modèle français, mais on n'a pas cette expérience-là, puisqu'encore une fois, pendant des siècles, les Ottomans occupaient la région et on a installé une principauté, puis une monarchie, mais tout ça est en train de s'élaborer. Et effectivement, il n'y a pas encore de structure suffisante pour empêcher cette tendance dictatoriale qui est assez fréquente dans la région.
Qui règne par le fer, périra par le fer, serait-on tenté de dire. Est-ce que Draga est plutôt coupable ou plutôt victime dans cette affaire? Nous l'avons vu martyr quand même sur la toute fin.
Oui, tout ça. Et d'ailleurs, encore une fois, il faut voir le communiqué qui a été fait après sa mort, qui a été envoyé. C'était dans un accès de folie, le roi et la reine ont assassiné leur garde du corps et se sont suicidés. Puis ils sont aussi jetés par la fenêtre, bien entendu, tout seuls. Donc c'est vrai que ça a quand même horrifié les chancelleries occidentales, cette affaire dont on se rend compte.
Horrifié, mais fait des gorges chaudes. On a dû.
Oui, mais on disait c'est les Balkans, donc
voilà, c'est ça.
C'est des gens cruels, féroces et qui s'entretuent gaillardement très, très régulièrement. Et on ne se rendait pas compte qu'il fallait quand même surveiller ça de près parce que c'est de là que partirait effectivement la Première Guerre mondiale.
Est-ce qu'elle a quand même eu une influence, personnellement, une influence politique, cette Draga Obrenović,
reine? Je ne crois pas. On lui prête, encore une fois, beaucoup de choses terribles. Mais
On lui prête des turpitudes, mais aussi des desseins politiques qu'elle n'avait pas forcément.
Je suis quasiment persuadé qu'elle ne les avait pas. De même que l'idée de mettre son frère sur le trône, ça n'est pas une certitude. Et j'en tiens pour preuve, justement, l'attitude de la dynastie qui prend le pouvoir après le roi Pierre, Karađorđević, donc qui va succéder au Obrenović. Une des premières mesures qu'il prend, c'est de sanctionner ceux qui ont fait ce coup d'État. Et récemment, il y a 2 ans encore, la famille royale qui a retrouvé son château à Belgrade d'aujourd'hui, qui sont des Karadjordjevitch, sont allés à la petite église.
Ils sont descendants de la famille opposée aux
Obrenović. Obrenović, sont allés dans la petite église Saint-Marc de Belgrade pour rendre hommage aux Obrenović, pour réconcilier d'une certaine manière ces deux dynasties et pour rappeler que effectivement on lui prêtait beaucoup de dessins absolument terribles, mais qu'on a peut-être exagéré à l'époque, pensant justement affirmer la dynastie qui allait lui succéder tout le cours du XXe siècle, comme si on avait besoin de noircir absolument pour se justifier, se déculpabiliser de l'horreur absolue de ce crime.
On disait du roi Pierre Ier, donc successeur, qu'il n'était pas beaucoup plus fréquentable que ses devanciers, un petit peu plus, plus civil tout de même. Oui.
Plus civil, et puis tout de suite, lui, il a bien précisé qu'il régnerait mais ne gouvernerait pas, il ne s'est pas du tout occupé de politique intérieure, il a été héroïque pendant la guerre de 14-18. Non, c'était un personnage, il avait traduit de la démocratie de Stuart Mill.
Il a essayé de l'empêcher, cette guerre, il faut le dire ça, parce que voilà une chose qu'on passe souvent sous silence, mais il a tout fait pour éviter la Première Guerre mondiale. Il ne pouvait pas, parce que là, les enjeux étaient tels qu'il le dépassait de très loin. Mais enfin, il a essayé de donner satisfaction à la cour d'Autriche.
Absolument. Hein. Quand il y a eu l'assassinat de François Ferdinand, les Autrichiens ont envoyé un ultimatum au gouvernement serbe avec un certain nombre d'exigences. Et le roi Pierre a intercédé pour qu'on accepte à peu près toutes ces exigences, mais il y en avait une qui n'était pas possible, qui était de faire une enquête à l'intérieur de la Serbie, une enquête autrichienne à l'intérieur de la Serbie, et ça c'était renoncer à la souveraineté nationale, et même le roi Pierre n'a pas voulu accepter.
Du reste, il y a tout près d'ici, tout près d'Europe 1, une très belle rue Pierre Ier de Serbie. Mais ça rappelle les anciens liens de la France avec cette Serbie. Ça nous entraînerait vraiment sur d'autres territoires. Ce que je préférerais, c'est que nous en restions aux reines, au pluriel, aux souveraines, devrais-je dire. Alors, vous en évoquez un grand nombre avec Jean Sevilla et tous les auteurs de ce recueil. Vous nous parlez de, on va dire, des derniers jours de beaucoup de nos souveraines préférées, de Catherine de Médicis à Marie-Antoinette, etc. Je préfère peut-être que nous en tenions aux plus récentes, à celles qui ont été les contemporaines et les successeurs de Draga Obrenović. Si vous voulez, nous y venons dans un instant, Jean-Christophe Buisson.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les derniers jours des reines, c'est le titre d'un ouvrage paru sous la direction de Jean-Christophe Buisson que vous recevez cet après-midi sur Europe 1, Franck. Et Jean Sevilla, ce livre est paru chez Perrin et en coédition avec Le Figaro Histoire. Et parmi ces derniers jours de reines, il y a de nombreuses reines contemporaines.
Et oui, alors il faut vous dire que le recueil ratisse large, si je puis dire. On va de Cléopâtre à Marie Stuart, de la reine Brunehaut. On avait parlé de la reine Brunehaut ici, tirée par les cheveux, la pauvre, à Catherine II de Russie, d'Isabelle la catholique à Sissi, bien entendu, et Victoria, etc. Draga Obrenović. Et puis alors, trois reines qui suivent Draga. Je mets de côté l'impératrice Eugénie, à laquelle nous avons consacré deux récentes émissions. Donc je me dis que la troisième, ça ferait beaucoup, peut-être. Quoique, on ne se lasse pas d'Eugénie. Elle a tellement de choses à dire sur elle. C'est l'impératrice de Russie, Alexandra Fiodorovna, la reine des Belges, Astrid, et puis alors une autre princesse belge, c'est Charlotte, qui a eu un destin tout à fait incroyable, Jean-Christophe Buisson. Il faut bien préciser que votre ouvrage s'attache aux derniers jours des reines, c'est-à-dire à ce qui conclut leur destinée, et ce sont souvent des destinées tragiques, du reste.
Oui, c'est un chapitre qui est rédigé par Jean-Louis Thieriot sur les derniers jours de Charlotte, impératrice, qui est une destinée incroyable. Et ces derniers jours, si vous me permettez, ont duré 60 ans. Parce qu'à partir du moment où elle est devenue folle, où elle était en tout cas diagnostiquée folle, elle s'est enfermée dans des ténèbres intérieures qui ont été une longue agonie. Elle n'avait plus tellement conscience de ce qui se passait. Maximilien de Habsbourg, donc qui était son mari, avait été fusillé par les Indiens. Donc
Elle avait fait d'abord un mariage tout à fait magnifique, hein, puisqu'elle épouse un archiduc d'Autriche, Maximilien,
le frère de François Joseph,
qui est le propre frère de l'empereur régnant. Donc on est vraiment dans ce qui peut exister, alors là, de plus élevé dans l'aristocratie européenne. Elle est d'un naturel très enjoué, elle est pleine de vitalité, cette Charlotte, et elle a des rêves plein la tête. Ce qui fait que lorsqu'il s'agit d'aller trouver un nouveau souverain pour cette province du Mexique, que les efforts conjugués de l'Autriche, de la France, etc. ont rendu à l'Europe, si je puis dire, ont donné à l'Europe, eh bien, elle se dit pourquoi pas, et elle va prendre cette mission très au sérieux. Elle se vit pleinement comme l'impératrice du Mexique. Hein,
oui. Et d'ailleurs, son mari, Maximilien, n'en voulait pas du trône quand son frère lui a proposé. Ça supposait qu'il renonçait aussi au trône d'Autriche-Hongrie, donc il était un peu ennuyé, mais elle s'ennuie s'ennuyaient parce qu'à ce moment-là, ils étaient à Miramar. Ils régnaient sur une petite région italienne qui appartenait.
Très beau château, Miramar, hein, cela dit, avec
le golfe de Trieste.
Sublime panorama sur le golfe, oui.
Et donc, quand on lui a proposé ça, elle a poussé Maximilien à accepter. Et donc, ils sont donc partis. Elle a pris effectivement très à cœur cette mission qui était au nom de la France, donc de Napoléon III, de régner sur le Mexique et d'en faire une nation catholique au cœur de l'Amérique du
une
Sud.
Une nation qui se voulait moderne, en fait.
Et moderne,
c'était un Mexique qui devait devenir un peu ce que le Brésil est devenu par la suite, si j'ose ce genre de rapprochement.
Mais il y avait une grosse épine dans le pied de l'empereur et l'impératrice qui s'appelait Juarez, qui était un Indien qui a rassemblé de plus en plus d'Indiens pour chasser les étrangers hors du Mexique au nom d'un nationalisme un peu soutenu par les Américains qui sortaient de leur guerre civile et qui ne voyaient pas d'un très bon œil, conformément à la doctrine Monroe, de voir des Européens s'occuper de l'Amérique, fut-elle du Sud. Et très rapidement, l'impératrice Charlotte s'est occupée de gérer aussi, de combler les manques un petit peu de Maximilien, qui n'est pas quelqu'un de très autoritaire, d'aller au-devant des populations, d'aller dans des villages retirés. Elle a vraiment pris à cœur cette idée de gouverner et de régner sur le Mexique. Malheureusement, très rapidement, Napoléon III a compris que c'était un désastre, un échec, a rappelé ses troupes.
Là, il faut dire quand même que le rôle qu'avait joué l'impératrice Eugénie, puisqu'on parlait d'elle, a été assez négatif, hein, puisque la France, après s'être entièrement engagée, s'est entièrement désengagée. On a laissé ces pauvres malheureux un peu seuls face à la révolte, et ça s'est mal fini, bien entendu.
Et ça s'est mal fini. Et quand Charlotte a senti le vent tourner, elle a décidé de venir en Europe pour convaincre justement Napoléon III et même le pape Pie IX de continuer à défendre le trône de son mari. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'elle bascule dans une forme de folie.
Ça doit être affreux pour elle. Elle qui était un peu l'espoir de l'Europe, du jour au lendemain, elle devient une sorte d'importune. Quand elle débarque dans les cours européennes, on dit « Oh mon Dieu, voilà encore cette espèce d'impératrice du Mexique qui vient plaider pour sa, qui vient prêcher pour sa paroisse ». Et d'ailleurs, au sens propre, lorsqu'elle se trouve au Vatican, elle a sa première véritable crise de folie. Elle est là dans l'antichambre du pape et de voir à quel point on la méprise et on se moque d'elle, elle finit par perdre la raison. Elle sait que son mari, lui, risque sa vie d'une minute à l'autre.
Ça a commencé un petit peu avant. Quand elle est arrivée en France, elle a eu une révélation. Lorsqu'elle a échoué à convaincre Napoléon III de revenir sur sa décision de rappeler les troupes françaises, d'un seul coup, elle l'a vu comme le diable. Elle l'écrit d'ailleurs à Maximilien, elle dit « c'est le diable ».
Il faut dire qu'il avait il ressemblait un peu à Mephisto.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Non, mais ce n'est pas un jugement de valeur sur Napoléon III, mais il avait physiquement un air un peu particulier, il faut dire ce qui est. Bon.
Et naît à ce moment-là chez elle un délire de persécution. Elle est persuadée que Napoléon III lui veut beaucoup de mal et veut l'empoisonner. Elle devient paranoïaque et elle ne veut plus rien boire, qui n'ait été goûté auparavant par des gens dont elle est sûre. Et lorsqu'elle arrive à Rome, elle voit le pape à deux reprises, qui lui fait savoir qu'il ne va pas envoyer des troupes lui non plus pour son mari. Et elle part un jour, elle demande d'aller à la fontaine de Trévi, parce qu'elle n'a pas bu de la journée, et elle revient au Vatican et elle exige de dormir au Vatican. Et il faut bien se dire que aucune femme ne dort au Vatican. Et le pape Pie IX se rend tellement compte qu'elle a basculé dans une forme de folie qu'il accepte, je crois que c'est la dernière fois c'était Lucrèce Borgia qui avait dormi au Vatican, accepte qu'une femme dorme au Vatican et puis fait savoir qu'il faut absolument l'évacuer et il faut l'interner. Et là, à partir de ce moment-là, on est en 1866. À partir de ce moment-là, elle est diagnostiquée, elle retourne à Miramar, mais elle passe son temps à tout casser, la vaisselle
on peut pas la
et à dire n'importe quoi. Et on l'emmène finalement en Belgique, on l'installe dans un château où elle va rester pendant... Enfin, dans deux châteaux, parce que dans le premier château, elle va y mettre le feu quand même.
Que sait-elle de la fin de son mari
Alors, on ne lui dit pas tout de suite quand Maximilien est fusillé en juin 1867, pour ne pas la brusquer. Et d'ailleurs, les premiers jours, elle arrive au château, les gens ne portent pas le deuil pour pas lui donner des soupçons. Et finalement, on lui annonce en 1868... Et d'ailleurs, il faut se souvenir que Maximilien, son dernier mot, ça a été « pauvre Charlotte ». C'est-à-dire que lui-même avait quand même conscience que sa femme n'allait pas très bien. Il est presque plus malheureux pour elle que pour lui-même.
Mais alors là, vous nous parlez de 1866, de 1868, mais ça va durer très longtemps, cette plaisanterie, si je puis dire, parce que la reine ne meurt que le 19 janvier 1927. Donc elle aura vécu dans cette folie pendant 60 années. Avec des rémissions quand même.
Avec des rémissions de temps en temps. Et aussi une forme de préscience parce que elle écrit des mots en 1913-1914 qui elle voit tout en noir, elle voit du sang partout. Enfin, elle devine de cette manière le carnage absolu que sera la Première Guerre mondiale. Et puis elle a toujours ces pulsions, c'est l'impératrice Zita de Habsbourg qui raconte un jour qu'elle venait lui rendre visite et on lui avait demandé de respecter le protocole derrière la porte, donc avant d'entrer dans la pièce, le protocole traditionnel pour la saluer, parce qu'elle était très jeune à l'époque, Zita, parce que Charlotte regardait par le trou de la serrure ses invités, et si ils ne suivaient pas le protocole, elle refusait de leur ouvrir. Donc elle avait quand même des réminiscences de ce qu'elle avait été, c'est-à-dire une impératrice.
On va rester en Belgique, si vous voulez, pour évoquer, nous l'avions fait aussi à ce micro, mais la figure de la reine Astrid, là encore, une destinée brisée extraordinaire.
Oui, la reine Astrid, c'est...
Reine des Belges.
Hein. Reine des Belges, et c'est assez incroyable, vous l'avez déjà évoqué, mais le parallèle qui peut être fait avec la princesse Diana.
Ah oui, c'est vrai, oui.
C'est un parallèle incroyable qui va de la date...
À bien des égards.
De la date. Elle est morte le 29 août 1935, donc fin août, comme la reine Diana. Elle est morte dans un accident de voiture. Mm-hmm. C'était Léopold III
qui
la
conduisait. Oui.
Voilà, le futur Léopold... Enfin, Léopold III, le roi des Belges. Et surtout, l'émotion qui a saisi non seulement la Belgique, mais le monde entier, est quelque chose qu'on ne s'imagine mal aujourd'hui. Pourquoi cette émotion? Parce qu'il y a eu des photos, c'est déjà le début de l'image, des photos de l'accident. Des photos du corps d'Astrid. Et en plus, c'était une reine, pour continuer le parallèle avec la princesse Diana, qui était très populaire parce qu'elle était très généreuse, parce qu'elle avait organisé un grand appel à la Belgique pour, considérant que la Belgique était dans une crise économique comme tous les pays d'Europe dans ces années-là, avait appelé tous les Belges qui avaient un peu d'argent ou de moyens une grande collecte pour le donner au petit peuple belge. Donc elle était très appréciée, très populaire, très belle, très élégante, très moderne. Et tout ça, elle formait un très beau couple avec Léopold, et
oui,
tout ça
on voit Léopold
a créé une...
au moment de l'accident qui court à sa recherche hein, dans le champ où elle a roulé. Enfin, tout
dans
ça,
dans les roseaux, ils sont tombés dans des marais. Et en Suisse, exactement. Et donc toute cette émotion est un peu la même qu'il y aura pour Diana. Et le parallèle va très très loin, puisque, comme vous le savez, il y a... Alors en 1936, sous le Front Populaire, il y a une petite statue qui a été installée à l'Hôtel Dieu, qui existe toujours. Et puis surtout, on a décidé de baptiser une place au nom de la reine Astrid. Où ça? À 50 mètres du pont de l'Alma.
Mais oui.
En 1936,
la pont place de l'Alma. Reine Astrid est juste à côté de l'endroit où va mourir la princesse
de
Galles.
Voilà, c'est assez sidérant comme parallèle, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur son règne par ailleurs, qui était quand même assez bref finalement.
Finalement, on comprend mieux à la lecture de ce recueil sur les derniers jours des reines, coédité par Perrin et Le Figaro Histoire, on comprend mieux la phrase de Madame de Staël sur... La royauté pour les femmes qui est le deuil éclatant du bonheur, disait-elle. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson. Vous êtes le directeur de cet ouvrage avec Jean Sévillia. Il faut citer, enfin on ne va pas les citer d'ailleurs, mais il faut dire qu'il y a un certain nombre d'auteurs, bien sûr. Chacun a brossé le portrait de sa souveraine en ces derniers instants.
Et dans un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand, vous reviendrez sur les origines de l'expression « fier comme Artaban ».
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Émilie sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous expliquer l'origine de l'expression « fier comme Artaban » ?
Alors « fier », ça vient du latin « ferus », qui veut dire « sauvage ». Mais j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est pas « fier » dans l'expression.
C'est « Artaban », bien sûr.
Vous connaissez Artaban, bien entendu, j'imagine.
Bien sûr.
Ni ça, on connaît que ça. Il n'y a pas un Artaban, d'ailleurs il y en a cinq, figurez-vous. Cinq Artabans qui ont régné au IIIe siècle de notre ère dans une dynastie perse. Qui s'appelait les Arsacides. Artaban V, le dernier roi des Parthes, a régné de 216 à 224. J'espère que vous n'oublierez plus ça, parce que ça fait quand même partie...
C'est noté.
Oui, ça fait partie des choses qu'il vaut mieux savoir.
Donc oui, bien sûr. Hein,
ça fait partie de la culture générale, disons-le. Bon, si on dit fier comme Artaban, ça n'est pas à cause de ces cinq Artabans du tout. Ça ne vient pas de là. Ça vient d'un héros, d'une fresque historique en 12 volumes, plus de 4000 pages, qui s'appelait Cléopâtre, et qui était signé d'un auteur aujourd'hui un peu oublié, c'est dommage, il s'appelait Gautier de la Calprenède, et il publie ça donc au grand siècle. Et dans ce roman, qui est un roman qui a beaucoup plu à Madame de Sévigné, mais que tout le monde a oublié aujourd'hui, l'un des personnages s'appelle Artaban. Or, ce personnage est arrogant, est orgueilleux, et vous imaginez que la bonne société qui lit à l'époque les ouvrages de Calprenède va prendre Artaban comme un symbole d'arrogance, d'où les expression littéraire, fier comme Artaban. Et puisque nous sommes ici dans le studio Coluche, dans la maison de Coluche, si je puis dire, à Europe 1, je me permettrai de vous rappeler que Coluche lui disait tout à fait autre chose. Dans le clochard analphabète, il disait « fier comme un bar tabac ».
Thank you.